Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halou Dmandi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Jeudi 22 décembre, mesdames, messieurs, heureux de vous retrouver pour le grand dialogue. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et certains sceptiques voient en cela un risque probant d'insécurité dans le pays, puisque ces fêtes de fin d'année sont traditionnellement des fêtes chrétiennes. Même si elles sont célébrées par l'ensemble des communautés, elles risquent d'être perçues par les groupes djihadistes comme étant ainsi de défi. Le contexte, vous le savez, est assez particulier au Mali avec des incidents sécuritaires à Bamako, mais également dans le reste du pays, particulièrement au centre et au nord. Particulier aussi puisque dans moins d'un mois se tiendra à Bamako le sommet Afrique-France où plusieurs chefs d'État sont attendus. Peut-on affirmer que Bamako est aujourd'hui sécurisé? Dans quelle atmosphère se préparent les fêtes de fin d'année dans la région sensible du Nord? Quels sont les grands enjeux de la sécurité au Mali? Avec nous pour cette émission, pour répondre à ces quelques questions, le commissaire divisionnaire Oroba Dako, il est le directeur régional de la police de Gao. Également le commissaire divisionnaire Sukuna Fofana, directeur régional de la police de Tombouctou, nous rejoindra au cours de cette émission. Paul Ben, il est journaliste indépendant, spécialiste de la sécurité. Il est de retour de ses régions sensibles du Nord d'ailleurs. Ali Tunkara, sociologue, analyste en sécurité dans le Sahel. Je suis Ousmane Diadié Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par Philippe Dambélé.
Le grand dialogue.
Depuis peu, la capitale revêt ses habits de fête à l'approche de la fin d'année. On se souvient encore des attaques de la terrasse et de l'hôtel Radisson, ou plus récemment de cette attaque du poste de péage de Sanankoroba près de Bamako. S'il est vrai que depuis la crise de 2012, le pays connaît une situation sécuritaire délicate, l'insécurité classique qui date d'avant 2012 n'est pas à négliger, surtout en ces veilles de fête de fin d'année. Vol de motos, de téléphones et autres articles divers sont à peu près le quotidien des Maliens. Nous avons enregistré justement le directeur régional de la police, M. Sidibé, de la police de Bamako, qui va, on va vous faire écouter cette capsule-là. Alors, d'ici un petit moment, que la technique soit prête avec cette capsule, nous avons en ligne le commissaire divisionnaire Oroba Dako, il est le directeur régional de la police de Gao. Bonsoir, monsieur le commissaire.
Bonsoir.
Alors, quelle est l'atmosphère aujourd'hui à Gao, justement, en ces veilles de fête de fin d'année?
Bon, l'atmosphère est bonne. On est là-dessus et les patrouilles se font normalement. Conjointement avec l'armée, la munition, la gendarmerie, la garde nationale. Et des fois avec Barkhane. Jusqu'à présent, ça va.
Alors justement, on parle énormément de risques justement d'attentats à Gao. Hein. On n'a pas cessé d'en parler. Il y a des incidents sécuritaires dans Gao et environnant. Qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui?
Bon, dans l'ensemble, c'est un calme relatif. C'est un calme relatif. Les forces armées de sécurité sont en train de redoubler de vigilance. Surtout en cette fin de fin d'année là. Donc il y a un peu, surtout avec les mouvements signataires là, il y a le début du MOC qui a bien commencé et il y a beaucoup de combattants dans la ville, mais vraiment il y a la vigilance à tous les niveaux.
Parlant un peu du MOC, vous pensez qu'il va démarrer incessamment? On avait annoncé justement le 15 décembre dernier comme date de départ du MOC. Il n'est toujours pas opérationnel. Le MOC qui est le mécanisme opérationnel, hein, justement une force conjointe entre groupes armés et les FAMA pour pouvoir sécuriser les environs. Quand est-ce que vous pensez qu'il sera opérationnel, le MOC?
On est très très confiant. Les autorités sont en train de mettre tout en œuvre pour que ça puisse démarrer. Et je pense au niveau de cette structure-là, ils sont là-dessus. Bon, nous sommes forces armées de sécurité malienne. Nous sommes en train de suivre. Jusqu'à présent, quand même, on est confiants.
Merci. Alors, on va d'ores et déjà écouter justement cette réaction du directeur régional de la police de Bamako suite à la sécurité.
La sécurité à Bamako va assez bien, puisqu'il faut être modeste, on est en train de prendre des mesures pour que les populations puissent d'une manière générale vaquer à leurs affaires. Et particulièrement en cette veille de fin d'année, il y a Maouloud, il y a Noël qui avance. Et en même temps, la tradition a été respectée de faire aujourd'hui, d'organiser les rues marchandes, ce qui vraiment est une tradition à Bamako et dans certaines capitales, n'est-ce pas, pour vraiment faire bien fêter les familles. Et donc au-delà de cela, et avant même tout ça, je crois que depuis quelques moments déjà, sur les instructions de la hiérarchie, de la sécurité, de la protection civile, le directeur général de la police nationale, et l'ensemble des forces, n'est-ce pas, gendarmerie, garde nationale, protection civile, nous avons pris des mesures depuis déjà plus d'un an, n'est-ce pas, depuis l'attaque de Radisson, et pour pouvoir vraiment maîtriser la situation au niveau de Bamako en termes de sécurité. Et c'est pour cela que souvent vous allez voir que nous faisons des patrouilles, beaucoup de patrouilles, des patrouilles pédestres, c'est-à-dire à pied, des patrouilles motorisées, et les gardes statiques qui ont été renforcés au niveau des unités de police, au niveau vraiment de tous les points de regroupement, des hôtels, tous les restaurants, et partout où vraiment il y a une foule. Et en plus de cela, il y a la surveillance des grandes artères, n'est-ce pas, par des motos et des véhicules, et pour pouvoir vraiment permettre aux uns aux autres vraiment de circuler normalement et de se sentir en sécurité. Et c'est le matin, quitter la maison, aller au travail ou à l'école et, ou au marché, et retourner vraiment dans les conditions de sécurité acceptables. J'ai dit acceptable, j'ai dit tout à l'heure assez bien, parce que la sécurité est quelque chose d'aléatoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est à 100% sécurisé. Et cela n'existe nulle part, et c'est pour cela que nous sommes prudents, très très prudents, et on ne va pas aller à dire que nous sommes à 100% sécurisés.
Voilà, donc c'était Siaka Bessidibé, le directeur régional de la police de Bamako, qui parlait de sécurité. Ali Tunkara, vous êtes sociologue, analyste en sécurité du Sahel. Alors, pensez-vous que Bamako, en ces veilles de fête de fin d'année, est sécurisé?
Bon, il ne l'est pas fondamentalement, eu égard aux différentes attaques auxquelles le quotidien de Bamako est rythmé. Bon, toujours est-il qu'il y a quand même, on peut même parler d'une militarisation de la vie ordinaire des populations bamakoises. Comme l'a dit le directeur, on voit quand même une présence policière de plus en plus renforcée. Et moi, je pense qu'en parlant de la sécurité de façon générale, il faudra plutôt qu'il y ait cet effort de prévention, ce qui manque cruellement. En effort de sécurité et de défense, on a vraiment du mal de savoir, d'identifier déjà quels sont les acteurs susceptibles de commettre des attaques meurtrières. Voilà, donc là, à ce niveau, le travail n'est pas tout accompli en réalité. Même si de plus en plus la présence policière est marquée, la présence des forces de sécurité, notamment le gendarme et d'autres unités, mais en réalité, jusqu'ici, les populations ont du mal justement à obtenir les résultats escomptés parce qu'elles ne se sentent pas sécurisées et de surcroît elles pensent que le traitement...
C'est juste une impression. Donc.
Oui, voilà, je crois que nous sommes plus dans l'impression que dans le réel en réalité. Hein, parce que, pour preuve, quand vous observez, vous assistez à une chaîne de crimes, que vous faites appel à la police ou à la gendarmerie, la temporalité elle n'est pas maîtrisée. Au lieu que,
mais aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a un dispositif conséquent qui...
Oui, mais je vous promets, même à la sortie de l'émission, vous allez vous adresser à un commissariat, vous allez à la limite attendre une heure, voire plus, pour que le commissariat débarque. Donc vous voyez combien souvent des questions de logistique sont posées. Bon, des forces de sécurité qui disent qu'ils n'ont pas de carburant. Enfin, ce sont quand même des manquements qui caractérisent une fois de plus nos forces de sécurité et de défense. Voilà, donc la sécurité, c'est ce qui est important également à ce niveau. Et elle a quand même une dimension plurielle aujourd'hui. Elle n'est pas l'apanage de la police ou de la gendarmerie à elle seule. Et les populations ont également un rôle à jouer en parlant de la sécurité. Et c'est ce pont qu'on a du mal justement à l'établir parce que les populations pensent que, voilà, finalement, est-ce que nos forces de sécurité qui sont censées veiller sur notre sécurité ne sont-elles pas aussi complices de certaines actions posées par des bandits ou des extrémistes violents?
Alors, quels sont les risques aujourd'hui pour le pays, hein, quand on sait que les fêtes de fin d'année sont propices à des actes terroristes? On a vu le cas de l'Allemagne, par exemple, il y a quelques jours.
Hein. Non, clairement, je crois que fondamentalement, il y a vraiment des risques imminents. Hein. Pour qui connaît l'ossature de la ville de Bamako avec l'urbanité, les bandits peuvent opérer avec facilité parce que déjà, des moyens de communication sont très accessibles. On arrive à communiquer de plus en plus avec aisance. Qu'il y a 10 ans, et dans le même temps, avec la facilité à laquelle les gens arrivent à se mouvoir, ça c'est extrêmement important. Donc on peut commettre un acte odieux à Kati, et les minutes qui suivent, on est à Balabou. Donc vous comprenez à combien si les forces de sécurité et de défense ne sont pas aussi au diapason de ces différents aspects qui sont notamment la mobilité des acteurs bandits et ces aspects liés également à la communication. Je crois qu'à ce niveau, la communication elle est loin d'être maîtrisée par nos services de renseignement et de sécurité. En fait.
Merci. Paul Ben, vous êtes journaliste indépendant, également spécialiste en sécurité du Sahel. Vous revenez d'ailleurs de ces régions sensibles du Nord. Est-ce que si je dis aujourd'hui que le Mali est plus sécurisé que beaucoup de pays, hein, notamment que l'Allemagne, hein, qui a connu un bilan plus lourd dans les grandes agglomérations en 2016, ou que la France, qui a eu un bilan plus lourd hein, d'attentats dans les grandes capitales, est-ce que je me trompe?
Vous vous trompez, hein? Vous trompez, M. Touré. Nous ne boxons pas dans la même catégorie. M. Tunkara vient de le dire. Hein? Nous sommes, c'est Dieu qui nous protège. Moi, je, à longueur de journée, quand je parcours les artères de la rue de Bamako, je l'ai toujours dit. Si moi, j'avais un esprit malveillant ou j'étais en complicité avec certaines personnes qui voulaient perpétrer des attentats, je pourrais le faire chaque jour. Je vous donne un exemple très banal. Hein. Parcourez un peu les artères de la rue, vous verrez combien de véhicules garés, qui sont garés depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines. On ne sait pas à qui ces véhicules appartiennent, qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est des bombes. On peut à tout moment mettre des bombes au passage d'un cortège présidentiel, d'un chef de l'AMUNISMA, d'un chef de la police. Ben, on les explose. Ça, c'est des facteurs d'insécurité.
Et vous pensez justement que l'insécurité au Mali, hein, on va dire même dans la capitale, est quand même
ça, c'est partout,
aussi,
hein.
Aussi grave?
C'est,
vous pensez qu'on en arriverait
c'est
là
partout, c'est partout. Pourquoi pas quand les terroristes permettent de peindre des véhicules sous la bannière des Nations Unies, mettre un explosif dans un véhicule qui est garé là, ça fait des mois. Mais c'est la moindre des choses.
Alors les forces de sécurité d'ailleurs ont procédé ce week-end hein, à l'interpellation de deux présumés djihadistes à Bamako, hein, deux djihadistes qui appartiendraient à Ansar Dine du Massina.
Oui, bien sûr, ils l'ont fait, mais de quelle manière? De quelle manière ils l'ont fait? Moi, je vous ai toujours dit ici, et j'ai des preuves par rapport à cela, chaque fois que vous entendez qu'on a interpellé, c'est grâce, bon, je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose, mais c'est grâce à l'apport de nos partenaires. Mais après, quand on passe l'affaire aux mains de la justice ou de la police ou de la gendarmerie malienne, quand vous demandez, on vous dit l'affaire est en cours. L'affaire est en cours. Le citoyen dont M. Tunkara évoquait, le citoyen veut être informé. Chaque fois qu'il y a un attentat, moi j'étais à Gao quand il y a eu l'attentat à l'aéroport. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui...
Mais Gao, justement, qui est censé être l'une des zones les plus sécurisées, avec une très forte présence militaire, Barkhane, la MINUSMA, les FAMA, oui, les groupes armés également. Et si ça arrive à Gao...
Oui, pour que les gens puissent perpétrer cet attentat, d'abord, il y a eu le laxisme.
Et Paul Ben, ça arrive en Allemagne aussi. Hein.
Oui, mais écoutez, c'est ce que je vous dis. Si aujourd'hui, quelqu'un décide, si ces terroristes veulent s'en prendre à Bamako... Aujourd'hui, ils n'ont pas Bamako sur leur agenda. Ça, je vous le dis. Ils n'ont pas Bamako sur leur agenda. Ils ont le nord du Mali sur leur agenda. Ils le font de façon intermittente. S'ils veulent s'en prendre aujourd'hui à Bamako, ils vont le faire de façon aisée. À Gao, revenons à Gao, ça a été perpétré d'abord parce qu'il y a eu laxisme.
Alors, comment se prépare justement les fêtes de fin d'année? Dans quel type d'atmosphère hein, à Gao?
Gao, vous savez, Gao a une particularité. À Gao, quand vous êtes étranger, quand vous pénétrez à Gao, vous êtes étranger, vous circulez, les gens de Gao sont alertes, sont très alertes. Ils ont le réflexe de savoir que, ah, ça c'est un étranger, on se connaît, Gao, c'est pas comme Bamako. Ils sont alertes, ils en parlent. Et souvent, ils approchent les forces de sécurité. Maintenant, c'est à ce niveau que la chose cloche. Ils donnent des informations. Mais maintenant, l'autorité qui est censée prendre des mesures pour cela a ces réalités que la population n'a pas. C'est là où ça cloche. Sinon, je vous dis, Gao aujourd'hui, comme le commissaire l'a dit, Gao est tranquille, Gao va qu'à ses occupations. Il n'y a pas de rue marchande comme à Bamako ou je sais pas, à Ségou. Mais la rue Washington, elle est bondée aujourd'hui de monde. Hein,
merci Paul Ben. Quelques secondes de pause, nous reviendrons pour la suite de cette émission.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
La sécurité à Bamako et environ, mais également dans le reste du pays, en CV de fête de fin d'année, c'est le sujet que nous évoquons dans le grand dialogue d'aujourd'hui. Alors, on a en ligne le commissaire divisionnaire Orouba Dako, directeur régional de la police de Gao. Monsieur le directeur, est-ce que justement Gao fait face aussi à cette insécurité classique? Parce que quand on parle d'insécurité, surtout au niveau de Gao, on pense tous au terrorisme. Mais il y a les vols de motos, les vols de téléphone portable, donc c'est un de brigandage classique qu'il y a. Est-ce que Gao en connaît beaucoup?
Merci. Bon, Gao en connaît, mais c'est en nette diminution. Avec la collaboration de la population, on arrive à anticiper certains cas. Dans la population collabore, et avec ça, on arrive à faire beaucoup de choses.
Alors, tout à l'heure, hein, allez-y, monsieur le commissaire.
Sinon, les vols de moto et de téléphone, ça, c'est courant, mais on dit aux populations d'être vigilants. Et il y a un numéro vert au niveau du camp. Et tout citoyen peut appeler au numéro vert. Directement, on intervient.
Ah, il serait peut-être bon de nous rappeler ces numéros verts pour nos auditeurs. Vous pouvez nous rappeler ces numéros verts si vous les avez en tête pour les auditeurs.
Hein? Bon, après, je vais vous communiquer.
D'accord. Et autre question, justement, monsieur le commissaire. Tout à l'heure, hein, Tunkara parlait de retard parfois quand on appelle la police pour intervenir quelque part. Il y a des problèmes de logistique, de retard, elle n'arrive pas à temps. Cela est dû à quoi?
Non, les gens, quand il y a appel, on intervient, ça dépend des cas. Si, par exemple, un cas qui est suspecté d'être terroriste, on est obligé de mettre, c'est pas une seule force qui se lève immédiatement. Et le cas est appelé, la gendarmerie, on intervient. Mais alors, si c'est des cas un peu classiques, la police intervient, ou bien si c'est dans le secteur de la gendarmerie, on intervient.
Alors,
tout dernièrement, ces derniers temps, les forces non se plaignaient, par exemple, s'il y avait certains cas, par exemple, les cas d'accident. Quand on appelle la police appelle, et après on vient trouver que les gens sont déjà partis avec leur moto ou bien leur engin. Mais je disais toujours aux éléments de continuer ça, c'est notre quotidien. À chaque appel, il faut répondre favorablement.
Alors, est-ce qu'il y a également cette interdiction des pétards à Gao?
Bon, ça fait quelques années maintenant que ça c'est en vigueur. Cette année, on va veiller là-dessus.
Alors, peut-on savoir d'abord pourquoi, hein? Parce qu'il semble parfois que la population ne sait pas exactement pourquoi ces pétards sont interdits. Donc, il serait peut-être bien de nous expliquer pourquoi il y a cette interdiction sur les pétards.
Ça c'est une décision des plus hautes autorités. Vous savez, quand une ville comme Gao, qui n'est pas épargnée d'attaques terroristes, et si on va s'amuser à faire des jeux avec les pétards, au cas où ce sera une attaque, les gens vont penser que c'est de tel cas. Ça, c'est l'explication la plus simple. Mais l'année dernière, j'étais là. Mais je peux dire la population de Gao, les jeux de pétards, là, ce n'est pas tellement courant. L'année dernière, j'étais là. Et vraiment, on a fait le 31. Il n'a pas tellement rapporté des cas où les gens vont s'amuser à faire ça. Ils ont suivi les consignes.
Merci, monsieur le commissaire. Restez donc avec nous pour la suite de cette émission. Ali Tounkara, vous êtes sociologue, analyste en sécurité du Sahel. Est-ce que justement les forces de défense, hein, y compris la police, sont outillées pour faire face à ces nouvelles menaces-là que l'on connaît aujourd'hui?
Bon, l'outillage est à relativiser en réalité. Je crois qu'il est aussi fonction de la sensibilité de l'alerte sécuritaire. Bon, en parlant de nos centres urbains, je crois que il y a quand même des efforts qui ont été consentis dans ces derniers mois. On peut le constater ça et là. Mais au-delà du seul aspect d'outillage, je crois fondamentalement que les acteurs qui sont vraiment sur le terrain. Bon, moi, j'ai eu quand même la chance de m'entretenir avec certaines forces de sécurité au centre du Mali, à Douanza, à Boni, à Haïré. Bon, ces gens vous diront qu'en réalité, ils ont vraiment du mal avec la hiérarchie, en fait. Parce que la hiérarchie, il y a des fonds qui sont alloués pour l'équipement, il y a des fonds qui sont alloués pour la mobilité des agents, mais lesquels fonds, il n'y a vraiment pas de redéveloppement. Il n'y a aucune lisibilité, en fait. Donc, à tel enseigne que, à chaque fois qu'on demande à un agent, bon, vous êtes dans un commissariat, savez-vous quoi, combien l'État alloue à votre commissariat? L'agent ne le connaît pas. Donc, il n'y a vraiment pas de redevabilité, en fait.
Non,
donc,
mais est-ce que vous pensez, justement, selon vos observations, vos enquêtes, que les forces de défense, la police aussi, hein, disposent de suffisamment de moyens? Parce qu'il y a parfois ce manque de moyens qui se pose. Hein. Quand un commissariat vous dit qu'il n'y a pas d'essence dans le véhicule, ça dénote quand même des manques de moyens très probants.
Non, c'est important. En fait, c'est une façon de légitimer certaines pratiques corruptives. En réalité, toutes les unités sont dotées des moyens, qu'ils soient suffisants ou pas. Et lesquels moyens les agents qui sont sur le terrain n'ont aucune maîtrise de ces moyens. Donc, à tel enseigne que, bon, à chaque fois, ils résument leur inefficacité à la question des moyens, ils résument leur inefficacité à la question logistique. Mais fondamentalement, je crois qu'il faudra qu'on ait cette culture de redevabilité, que les chefs hiérarchiques rendent compte aux agents opérationnel, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Vous allez dans n'importe quel commissariat, vous allez vous entretenir avec les unités qui assurent les différentes patrouilles. Ces unités n'ont aucune connaissance de l'enveloppe allouée effectivement pour leur fonctionnement. Donc vous comprenez à combien le Mali aime justement nous inscrire dans ces mythes perpétuels des secrets de défense. Ça ne tient pas comme argumentaire. Fondamentalement, l'État doit exiger justement des comptes à ceux-là qui sont censés assurer notre sécurité. Donc les agents peuvent se plaindre des moyens, ils peuvent se plaindre également, il faut quand même le rappeler. Vous allez croiser des agents au niveau de nos différents postes de contrôle, et lesquels agents sont quand même, ne sont même pas en tenue. Vous allez, moi je suis allé à Tombouctou jusqu'à à Sumpi, j'ai vu quand même des agents en réalité, dans un pays en état de crise, qui ne sont même pas bien habillés déjà, les quelques armes qu'ils possèdent, ces armes ne sont pas tenues. Donc, vous voyez, il y a quand même cette escalade émotionnelle qui caractérise le quotidien des Maliens. Donc, c'est extrêmement important qu'on se dise ce genre de vérité entre nous, Maliens, déjà, avant que les forces étrangères n'interviennent.
Merci, Paul Ben. Permettez-moi de faire réagir juste le commissaire, hein, avant de vous donner la parole. Le commissaire divisionnaire Ogo Baradako, directeur régional de la police de Gao, est-ce que vous faites face justement à un manque de moyens quelquefois au niveau de la police à Gao?
Bon, je vais vous communiquer le numéro vert qu'il y a au niveau du camp.
Allez-y.
Vous prenez le 80.
Oui, allez-y.
001-73.
Le 80-001-73. Donc, pour nos auditeurs de voilà. Gao, c'est le numéro vert à appeler voilà. En cas de besoin. Alors, mon commissaire, dites-moi, est-ce que vous faites face justement à un problème de moyens, hein, parfois au niveau de Gao? Est-ce que les moyens dont vous disposez sont suffisants pour pouvoir faire votre travail?
On arrive avec l'apport de nos partenaires. On arrive quand même à gérer les deux bouts. Le côté carburant, vraiment, on a, avec l'appui du camp et de nos partenaires, surtout la munition, ce problème ne se pose pas. Peut-être c'est les moyens roulants, mais des fois, si on a des pannes sur nos engins, si on fait recours au camp, s'ils ont des pièces de recherche, ils nous aident.
Alors, aujourd'hui, quel est le grand défi justement pour la police de Gao, par exemple, hein? Quel est le grand défi? Est-ce que vous avez suffisamment d'effectifs, suffisamment de matériel, suffisamment de moyens financiers? Quel est, où est-ce que le bas blesse?
Bon, le bas ne blesse pas tellement parce qu'on arrive à supporter. Mais au niveau de nos chefs, on avait toujours demandé un peu d'étoffer l'effectif.
Ils sont combien aujourd'hui?
Et un peu de plus de moyens roulants.
Il y a combien de policiers au niveau de la commune urbaine de Gao?
De Gao, bon, nous sommes à 72.
72 pour toute la population de Gao, toute la région de Gao. Donc il y a probablement un sous-effectif. Hein. Alors,
c'est pour la capitale, le chef-lieu des régions. Parce qu'on attend, peut-être si on aura la chance, en 2017, peut-être en son va sera ouvert. Il n'y a qu'un seul commissariat à Gao.
Merci, monsieur le commissaire. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Paul Ben, hein, 72 policiers hein, pour tout Gao.
Oui, en 2013, ils étaient 85. Je vois qu'ils ont diminué. Hein. Ça, c'est pas du tout bien.
Ah, moi, je connais justement hein, ce parce que ça fait partie des manques de moyens.
Oui, hein, vous savez, c'est une volonté politique. Hein, c'est une volonté politique. Moi, je l'ai toujours dit. Gao, vous savez, Gao, c'est la plus importante ville au nord du Mali. C'est un carrefour. C'est là où se concentrent toutes sortes les bandits de tous acabits passent, ils repassent, ils résident souvent. Et moi, je crois que l'effectif que le commissaire vient de nous communiquer, il est très bas par rapport à la ville de Gao. La ville de Gao, elle s'étend. Elle continue à s'étendre. Et les patrouilles, Gao, il ne nous a pas dit, peut-être qu'ils ont deux véhicules tout au plus. Il n'y a pas de moto comme on les voit ici chez nous, avec des gens de la BMI, la brigade d'intervention mobile. Il n'y en a pas à Gao. Or, moi je connais Gao comme la paume de ma main. Chaque jour, il y a des interventions à faire. Mais avec cet effectif, avec le manque de matériel roulant, moi je crois que le commissaire, il n'a pas grande chose à faire. Ça, c'est un deuxièmement. Vous savez, Gao, après la crise...
Qu'est-ce qui est prioritaire, justement, hein, dans tout ce mélimélo,
hein? Il faut un effectif conséquent. Il faut un effectif conséquent. Parce que même si on doit faire des patrouilles pédestres, il faut des gens. Il faut des hommes. Il faut des hommes armés. Aujourd'hui, avec l'amunissement, moi, je vois souvent des patrouilles. Les patrouilles de l'amunissement, c'est... Les gens de Gao l'appellent showtime, c'est-à-dire ils passent sur les artères qui bitumées, ils font un tour, deux tours, ils reviennent, c'est fini, au revoir.
Et il y a également la présence de Barkhane. Hein,
Barkhane a d'autres chats à fouetter. Barkhane ne rentre pas dans le dispositif. La patrouille de Barkhane, quand Barkhane veut faire la patrouille, Barkhane décide cela. C'est pas des patrouilles qui sont programmées. Et voilà, ils le font de façon aléatoire. Et puis, ils passent quand ils ciblent les endroits, ils le font et puis ils passent. Ce n'est pas les patrouilles qu'on connaît, les patrouilles normales. Quoi.
Alors, en ces veilles de fête, justement, hein, quel est le plus grand défi dans ces zones sensibles?
Il faut, moi j'ai dit Gao, je me réjouis aujourd'hui que Gao soit alerte, les populations de Gao soient alertes, vraiment. Maintenant, Menaka aussi que je connais, Menaka c'est la même chose. Menaka, franchement, j'ai remarqué quelque chose à Menaka. Dès qu'il y a un petit incident ou dès qu'il y a quelque chose, c'est les téléphones, c'est les talkies qui commencent à crépiter. Tout le monde veut savoir qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que ça s'est passé, qui l'a fait. Donc les gens sont déjà dans la mouvance il faut continuer à être vigilant. Moi, je l'ai toujours dit, chaque Malien est un bon policier, chaque Malien est un bon gendarme, chaque Malien est un bon agent de renseignement. Il faut maintenant que les autorités qui sont censées, les forces armées et de sécurité, le redisent. Parce que chaque fois, on a été brimé. Ah, ça, c'est pas votre travail. Ah, vous n'allez pas nous montrer notre travail. Il faut qu'on nous dise maintenant, qu'on nous mette dans la tête que vraiment, tout bon Malien, comme je l'ai dit, est un bon agent de renseignement. Ça, c'est ça qu'il faut. Il faut de la vigilance.
Merci, Paul Ben. Quelques secondes de pause, nous reviendrons pour la suite de cette émission.
réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Merci de rester connecté au Grand Dialogue du studio Tamani. Nous parlons de la sécurité dans Bamako et environ, surtout, et dans le reste du pays, en ces veilles de fête de fin d'année. Nous recevons justement sur ce plateau le commissaire divisionnaire Oroba Dako, directeur régional de la police de Gao, Paul Ben, journaliste indépendant spécialiste de la sécurité, Ali Tunkara, sociologue, analyste en sécurité dans le Sahel. On vous avait également annoncé le commissaire divisionnaire Sukuna Fofana, directeur régional de la police de Tombouctou, qu'on n'arrive malheureusement pas à joindre jusqu'ici. Alors, dites-moi, est-ce que, M. Tunkara, est-ce que la sécurité, justement, dans ces zones, dans ces veilles de fête de fin d'année, doit-elle être différente dans ces régions sensibles du pays, et Bamako?
Non, elle doit l'être nettement, vu le contexte déjà. Vous l'avez dit dans les propos introductifs, les fêtes de fin d'année sont vraiment plurielles aujourd'hui. Elles font appel à toutes les sensibilités. De se faire, il est quand même urgent que la sécurité ne soit pas seulement l'apparat des forces de sécurité, mais qu'elle soit humaine également. J'entends par la sécurité humaine, c'est cette dimension plurielle. Tous les acteurs, Paul l'a si bien dit, tout Malien est un bon agent de renseignement, est un bon agent qui est censé justement alerter les acteurs qui ont la charge de notre sécurité. Alors pour ce faire, je crois que partout il y a l'idée de foule, il y a d'attroupement. L'idéal serait que les gens soient vraiment très vigilants. Au-delà de la vigilance, que les forces de sécurité soient aussi attentives aux demandes des populations locales. C'est extrêmement important. Je crois qu'il faudra qu'on arrive à mettre en place un cadre d'échange substantiel entre les populations et les forces de sécurité. C'est ce cadre d'échange substantiel qui, à mon entendement, peine à être mise sur place, en toute sincérité. Parce que vous prenez nos artères, vous prenez les établissements également, parce que quand même, il faut le rappeler. Et quand vous prenez l'espace universitaire ou scolaire, il y a quand même des formes de violence tout à fait récurrentes. Lesquelles formes de violence ne sont pas tout réprimées. Donc, on se pose finalement la question, est-ce que nous ne nous dirigeons pas vers une sorte de légitimation de l'action dite violente ou criminelle? Par le simple fait que ce sont les actions qui restent impunies, en fait.
Merci. Alors, commissaire divisionnaire Oroba Dako, vous êtes le directeur de la police de Gao. Quelles sont les dispositions spéciales qu'il y a en ces veilles de fête de fin d'année au niveau de la police à Gao?
De concert avec les forces de défense et de sécurité, le dispositif sera renforcé au niveau du camp. On vient d'avoir un cadre d'ordre qui sera respecté par toutes les forces. Et dans ce cas, je pense que dans la ville, les alentours de la ville, tout sera bien fermé.
Merci. Paul Ben, vous êtes journaliste, analyste en sécurité. Vous connaissez très très bien les zones du Nord. Est-ce que le retrait de la CMA, du comité de suivi, n'est pas également de nature à perturber la sécurité en cette fin d'année?
Non, pas du tout. La CMA continue à faire son show comme elle a toujours fait. Elle souffle le chaud et le froid. Moi, je crois que les gens sont concentrés aujourd'hui sur certains objectifs principaux, c'est-à-dire la mise en place du MOC. Nous avons terminé avec les communales tout récemment. Il y a des endroits au nord du Mali où ça n'a pas eu lieu. Les régions, les chefs-lieux de régions...
Pas seulement dans le nord, dans le centre du pays également.
J'en venais, dans le nord où ça n'a pas eu lieu, au centre aussi. Les gens sont aujourd'hui dans cette mouvance de mettre en place toutes les collectivités et après il y aura les autorités intérimaires. Je crois que ce petit brouhaha de la CMA, est, franchement, les gens ont compris.
Vous pensez que le retrait de la CMA...
Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas... Non, il n'y a pas du tout. Nous sommes aujourd'hui, jeudi, le mardi, la CMA ici à Bamako, qui savait qu'il y avait une réunion, a poussé la CMFPR2 et le MSA à aller prendre en otage le MOC à Gao. Mais ils ont vu que, franchement, ça n'allait pas marcher parce qu'il y a eu tout le monde qui s'est levé. Barkhane était là. tout le monde était là pour leur dire que franchement, il ne faut pas vous faire des histoires pour rien. C'est Bamako qui a appelé pour leur dire cela. Vous savez, vous voyez un peu ce petit jeu. Je crois que tout le monde aujourd'hui est concentré sur des objectifs pour le retour de la paix, de la cohésion sociale et du développement dans ces régions qui sont meurtries depuis la crise de 2012. Je crois que ça ne va jouer en rien.
Nous rappelons à nos auditeurs d'ailleurs que ce retrait de la CMA du comité de suivi a été condamné par l'ambassadeur de l'Allemagne au Mali. Alors, les déguerpissements de ces dernières semaines ont aussi été pointés du doigt, les déguerpissements de Amin Kane, comme une source justement d'amplification de l'insécurité, puisqu'on crée des chômeurs, selon certains analystes. Est-ce que ça vous paraît sensé, justement, M. Tunkara?
Je crois qu'il faut s'attaquer aux raisons du déguerpissement, en fait. Pourquoi les gens...
Justement, à ces veilles de fête où il y a beaucoup plus de monde, l'affluence est grande dans les rues, est-ce que ça peut être un facteur, justement, d'insécurité quelque part?
Je crois que, d'ailleurs, ce sont les occupations qui constituent d'ailleurs une source d'insécurité que le déguerpissement en tant qu'acte posé par Amin Kane. Je crois fondamentalement que les commerçants qui ont été déplacés ça et là, et qu'ils comprennent qu'on ne peut aucunement amorcer le développement dans les deux ordres. Donc, ce sont des actions posées dont il faut vraiment les saluer. Maintenant, toujours est-il que lesquels commerçants qui s'acquittent de leurs impôts, c'est là que ça pose problème. Alors, donc les autorités municipales, vous comprenez à combien les gens sont dans le faux au Mali. Comment on peut fermer les yeux sur des actions qui ne s'inscrivent pas dans le formel, et lesquelles actions sont aussi à la limite, on va nous dire qu'il y a des familles qui vivent de ces commerces, c'est une évidence, mais sauf que nous n'avons pas oublié également que combien de gens sont également gênés dans leur temporalité, parce que si vous voulez partir d'un point A à un point B pour une raison d'une demi-heure, ne serait-ce que par l'occupation anarchique des artères, vous allez mine de rien passer plus d'une heure. Donc vous comprenez à combien ces occupations aussi étaient d'ailleurs, je dirais même anti-développementistes.
Donc, en somme, ça n'a pas d'impact.
Non, ça n'a vraiment pas fondamentalement d'impact. Mais je crois qu'il faut veiller à ce que le désordre ne se réinstalle plus, en fait. C'est ça aussi.
Merci. Alors, commissaire divisionnaire Oro Badako de la police de Gao, que doivent faire les populations de Gao pour justement aider à maintenir cette quiétude-là à Gao en ces veilles de fête de fin d'année? Qu'est-ce que les populations de Gao doivent faire pour vous aider à maintenir la quiétude en ces veilles de fête de fin d'année à Gao?
Je vais leur demander encore plus de faire comme l'année dernière. Nous épauler, nous renseigner, collaborer, suivre les institutions, les institutions que les autorités vont donner. Et il faut faire encore mieux que l'année dernière. Il y a une population vraiment qui collabore bien.
Est-ce que vous pensez que vous êtes parfois buté à des problèmes de sensibilisation, parce que c'est pas toujours que la population comprend qu'elle doit ou comment d'ailleurs collaborer avec les forces de l'ordre? Est-ce que vous êtes buté un peu à ce problème au niveau de Gao?
On ne peut pas avoir une collaboration à 100%, mais la majorité quand même collabore. J'ai le numéro vert que je vous ai communiqué, plus le numéro de la police et de la gendarmerie, c'est à leur disposition. Il y a des affaires anonymes qui donnent des informations qu'on exploite.
Merci, mon commissaire. Alors, Paul Ben, justement, quelle doit être la responsabilité des citoyens face à toutes ces menaces-là on ne vit pas, on n'est pas dans un contexte normal au Mali aujourd'hui. Quelle doit être la responsabilité des citoyens?
Oui, je vais me répéter. Moi, je dis que il faut que chaque Malien, chaque Malienne comprenne qu'il est un très bon agent de renseignement, qu'il est très utile pour la sécurité de son pays. Je comprends aussi souvent que certains ont peur de donner certaines informations, parce que après, c'est ce qui se passe au Nord, par exemple, vous donnez l'information une heure de temps après, on vient vous égorger. Je le comprends, mais qu'on essaye. que les populations essayent de renseigner. Chacun a un frère, chacun a une sœur qui est porteur d'uniforme, qui est agent de la police, de la gendarmerie. Si on ne peut pas aller au poste de police ou à la gendarmerie, ben, qu'on essaye d'appeler son frère pour lui dire, bon, attention, j'ai vu ça, ou bien je remarque cela. Je voudrais surtout aussi appeler les autorités, c'est-à-dire les forces armées de sécurité. Le facteur que j'ai dit, que j'ai évoqué au début de mon intervention, je disais que toutes les rues de Bamako sont jonchées de véhicules qui sont à l'arrêt. Et moi, j'ai vu dans certains pays, c'est des facteurs d'insécurité. Ça, je l'ai vu. Et franchement, chaque fois, j'ai la chair de poule. Vous voyez des garages anarchiques partout, où il y a des véhicules qui sont à l'arrêt depuis plusieurs mois. Et ces mêmes artères sont pratiquées aussi bien par le citoyen lambda que les hauts cadres de ce pays.
À vous entendre, la situation est très dramatique. Hein. Pourtant, quand on compare le Mali à certains pays, hein, comme le Soudan, le Kenya, qui ont connu des attaques, ou le Nigeria, hein, qui ont connu des attaques très, très, très violentes, hein, on n'en est pas là.
C'est une question d'agenda des terroristes. C'est une question d'agenda des terroristes.
Je n'ai pas, vous l'aviez évoqué tout à l'heure.
C'est une question d'agenda des terroristes, je vous dis. Les terroristes ont un agenda dont Bamako ne figure pas, sur lequel Bamako ne figure pas à 10%, pas encore. Ils ont un agenda sur lequel Bamako ne figure pas à 10%.
Et vous pensez qu'on ira vers cette évolution
bien sûr. Moi, je suis convaincu de cela.
Merci.
Mais que Dieu nous en garde. Hein, que Dieu nous en garde.
Merci. Ali Tunkara, à quoi doit-on faire le plus attention aujourd'hui, hein, ces veilles de fête de fin d'année?
Je crois qu'il faudra que les forces de sécurité elles-mêmes acceptent la règle de l'art. Quand vous prenez nos policiers, nos gendarmes, nos militaires, une bonne partie de ces agents circulent dans des véhicules non immatriculés déjà. Donc cette distribution de la justice à géométrie variable, elle ne peut qu'aggraver davantage l'insécurité. Donc finalement, on se pose la question, au nom de quelle loi, au nom de quelle législation un policier est habilité de circuler sans immatriculation? On va où là? Donc, je crois que c'est extrêmement important. Voilà, c'est extrêmement important. Moi je me pose la question, mais quel pays sommes-nous en fait? Donc il faudra que les policiers, les gendarmes et même s'appliquent la rigueur et la discipline. C'est extrêmement important. Et que les citoyens aussi exigent des redevabilités. Parce que quand dans un pays il n'y a pas de compte à rendre, c'est extrêmement important. Ceux qui sont chargés de la sécurité, qui rendent des comptes, c'est extrêmement important pour que la sécurité humaine soit efficace. Mais dans le même temps, à ce niveau également, moi je pense que ces mesures de représailles dont Paul faisait allusion, elles sont une évidence. Quand vous dénoncez un criminel, le lendemain vous le verrez également dans la rue. Donc finalement, le justiciable se pose la question, quelle justice nous avons? Parce que cette justice malienne, elle a vraiment du mal à être équitable. Cette justice malienne,
donc il y a en somme aussi un problème de justice
qui est fondamental, qui est vraiment fondamental.
Alors, monsieur le commissaire, directeur de la police régionale de Gao, Oruba Dako, un dernier rappel justement à lancer aux populations de Gao en ces veilles de fête de fin d'année.
Je vais leur dire encore de plus d'avoir confiance à tes forces de défense et de sécurité et de faire encore plus de l'année dernière en nous accompagnant, en suivant les instructions qui seront données. Et avec ça, je pense qu'on pourra passer vraiment des nuits de fin d'année un peu tranquille et de faire confiance à leurs forces de défense et de sécurité.
Merci donc, commissaire divisionnaire, hein, directeur régional de la police de Gao, hein, Oruba Dako. Ceci met un terme à notre émission d'aujourd'hui. Merci, messieurs, d'avoir partagé votre expertise, hein, avec nos auditeurs dans l'ensemble du pays. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.studiotamani.org ainsi que toutes les autres. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Aran Diallo. Elle était mise en onde par Philly Dambélé. À la régie vidéo, vous aviez nous dire. Je suis Ousmane Diadié Touré. À demain pour une autre émission.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry. Haloud Moundi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.